Alors, bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition du 2 novembre 2019 de Nouvelles du Haut du Lac. En manchette cette semaine, Dolbeau-Mistassini et Ville-Saguenay en cours contre les fournisseurs d'équipements incendie. La ferme Barrette et Frères de Saint-Edmond-des-Plaines, lauréate d'une première place pour la médaille de bronze du mérite agricole. Saint-Thomas-Didier, mais Notre-Dame-de-Lorette, enfin desservie par la téléphonie cellulaire et Internet haute vitesse. Dolbeau-Mistassini et Ville-Saguenay en cours contre des fournisseurs d'équipements incendies. Les élus de Dolbeau-Mistassini ont mandaté la firme d'avocats Simard Boivin-Lemieux SENCRL pour les représenter dans le recours commun avec Ville-Saguenay contre Équipement incendie CMP Mayer Incorporé et Compagnie 3M Canada. En fait, la ville de Dolbeau-Mistassini réclame le remboursement de 262 000 $ pour l'acquisition d'équipements respiratoires utilisés par les sapeurs-pompiers. Le maire de Dolbeau-Mistassini, M. Pascal Cloutier, a expliqué le pourquoi de cette poursuite lors de la séance publique tenue lundi dernier.
Dans ce dossier-là, c'est que nous avons des problématiques avec nos ce qu'on appelle les survivants, là. Les systèmes respiratoires au niveau de l'incendie. Là, ça doit faire à peu près 2 ans qu'on a fait l'achat. On a fait l'achat de systèmes nouveaux pour nos pompiers. Puis on a eu des problématiques. C'est qu'ils se forment vraiment comme du comment est-ce qu'on appellerait ça?
La glace,
là, à l'intérieur des appareils. Fait que ça cause vraiment un problème. Mais là, tellement que là, il y a eu des représentations qui ont été faites contre la compagnie. Avec la compagnie qui a vendu ces appareils-là. Puis, à partir de ce moment-là, M. Quentin a validé aussi auprès d'autres organisations. Et quand on a fait l'achat de ces appareils-là, on l'a fait de façon regroupée avec Ville-Saguenay. Donc, on avait acheté les mêmes appareils, puis c'est eux qui avaient été conformes, là, au niveau conforme, au niveau des prix, qui avaient été les meilleurs. Donc, nous, à ce moment-là, on a procédé à l'achat de ces appareils-là, mais aujourd'hui, c'est vraiment une problématique tellement... que là, malgré les représentations qui ont été faites, c'est que l'entreprise n'a pas admis ses torts dans le dossier, puis dit qu'eux autres, ils répondent à une norme qui a été établie, mais nous, cette norme-là, force est d'admettre que ce n'est pas une norme qui répond aux exigences qu'on a ici au Québec, c'est-à-dire qu'au Québec, on a l'hiver, on a le froid, peut-être ce qu'ils n'ont pas du côté des États-Unis. Donc, c'est pour ça que vous avez vu, on voit deux points. Un point qui est un avis de motion pour racheter des nouveaux appareils. C'est ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas le choix, éventuellement, parce que, comme je vous dis, au niveau du service incendie, on ne peut pas envoyer nos gens avec des appareils qui peuvent être problématiques. Puis l'autre point, on mandate une firme vraiment pour aller faire en sorte de revendiquer nos droits avec Ville-Saguenay. Il y a eu une discussion qui s'est faite entre les deux villes pour vraiment défendre notre point et leur demander de reprendre tout simplement nos appareils. Donc, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas voulu, mais là, on y va du côté légal de la chose.
La ferme Barrette et Frères de Saint-Edmond-les-Plaines, lauréate d'une première place pour la médaille de bronze du mérite agricole. Dans le cadre de la desserte des prix de l'Ordre du mérite agricole pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la ferme Barrette et Frères de Saint-Edmond-des-Plaines s'est vue octroyer la première place pour la médaille de bronze. Le copropriétaire de l'entreprise agricole, Étienne Barrette, a ainsi commenté ce prix qui se veut une reconnaissance de la qualité du travail effectué par les deux frères qui en sont propriétaires. Guillaume et Étienne Barrette exploitent une entreprise de production bovine depuis 2003 à Saint-Edmond-les-Plaines.
Alors, c'est un concours qui souligne l'excellence en production agricole. Toutes les productions sont admises. Beaucoup de paramètres sont pris en considération. Oui, au niveau technique, le niveau financier, le plan humain, le rayonnement social. Alors, c'est beaucoup de quelques critères qui prennent dans l'ensemble une entreprise et la contribution que ça a dans son milieu. Alors, l'objectif, comme je dis, du concours, c'est souligner les efforts que les exploitants mettent dans tout ça, puis souligner aussi toute la contribution des gens aussi aussi autour. Alors, concours qui a 130 ans d'existence, un concours, je dirais, parmi les plus prestigieux là, au niveau agricole dans la province. Alors, c'est une reconnaissance que... C'est une belle reconnaissance que le ministère de l'Agriculture fait envers les producteurs agricoles. Peut-être qu'on... Je pense que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être vécu. Et, en fait, pour l'avoir vécu, là, je peux dire, je recommande chaudement, si on veut, au ministère de l'Agriculture de poursuivre cette initiative-là qui met bien en lumière les entreprises qui se démarquent, qui font un beau travail. L'entreprise Barrette et Frères, c'est une entreprise en exploitation vache-veau qui a 16 années d'existence de réaliser. Nous exploitons mon frère et moi, ainsi qu'avec quelques membres de la famille et du voisinage, un ou deux travailleurs là, à temps partiel. Une entreprise, on exploite environ 450 hectares de terre qui servent à nourrir simplement le bétail, un troupeau là, de 250 mères à la reproduction et un petit peu de relève au travers de ça. Et le produit que nous mettons au marché, c'est un veau d'embouche là, qui est à la sortie de l'entreprise, est destiné à des packs d'engraissement pour poursuivre sa croissance à ce moment-là et produire un bœuf intéressant à mettre dans l'assiette.
Saint-Thomas-du-Dîme et Notre-Dame-de-Lorette, enfin desservis par la téléphonie cellulaire et Internet haute vitesse. Fort de l'appui financier du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, de toutes les MRC de la région, de la ville de Saguenay, par le biais de Promotion Saguenay, des municipalités impliquées et d'un solide partenariat d'affaires avec Bell, l'Agence interrégionale de développement des technologies de l'information et des communications, AITIC, annonce la mise en service quasi simultanée des 6 premiers sites de son plan régional de déploiement des services d'Internet à haut débit et de téléphonie mobile avec 3 mois d'avance sur son échéancier. Rappelons que ce projet était priorisé et soutenu depuis 2015 par l'ensemble des élus municipaux et par la table régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'AITIC annonce la mise en service continue des services cellulaires entre Chambord et la limite régionale de la route 155, ainsi que pour les municipalités de Saint-Thomas-du-Dîme, Notre-Dame-de-Lorette, Labrec et La Marche. Avec la réalisation de ce projet, ces collectivités auront enfin accès aux services complets pour Internet à haute vitesse et la téléphonie cellulaire, telle qu'elle le réclame depuis bon nombre d'années. L'AITIC amorcera les travaux des sites des municipalités de Saint-André, Saint-Stanislas et Saint-Honoré en novembre, en vue de mettre en service ces nouveaux sites d'ici le printemps 2020. L'UPA régionale déçue du programme de compensation à l'intention des producteurs laitiers. En entrevue avec la télé du Haut-du-Lac, le président de l'UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mario Théberge, s'est dit grandement déçu de l'attitude du gouvernement Trudeau dans le dossier des compensations annoncées pour aider les producteurs laitiers qui ont dû renoncer à un mois de production par suite de la nouvelle entente commerciale entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mario Théberge a ainsi commenté la situation qui prévaut actuellement dans ce dossier.
Pour résumer, il y a eu des promesses de M. Trudeau et que, lors du dernier budget, au printemps dernier.
Oui.
Et les promesses, bien, on attend encore après la couleur des chèques.
OK.
Puis c'était des promesses là, qui étaient dans le budget. On pensait que c'était plus sérieux, mais là, force est de constater que ça a viré en promesse électorale. Et sur le 1,75 milliard qui a été promis, bien, il y en a, je pense, 365 millions qui ont été garantis qu'ils allaient être versés d'ici les fêtes. C'était pour cet automne, puis là, c'est rendu d'ici aux fêtes, puis là, on se demande de savoir là quand. Puis le reste, bien, c'est le bout que j'ai pas aimé, qu'on n'a pas aimé, c'est que les libéraux nous ont dit cet été, bien, le restant, là, sur le 1,75 milliard, vous l'aurez si on est encore au pouvoir.
Oh non!
Sur 8 ans. Fait que, regarde, là, moi, je vous dis que les Américains, depuis qu'ils ont le Farm Bill qui verse année après année, 100 milliards de dollars par année. Et suite aux ententes commerciales, dont on fait les frais, en tout cas, depuis 2 ans, ils ont 30 milliards additionnels de versés aux producteurs américains. Additionnels. Nous, on a eu un point sur les 15 milliards de promis, mais ça va être sur 8 ans. Si on les reconduit au pouvoir, on est fin qu'eux autres.
16 organismes de Dolbeau-Mistassini reconnus organismes supralocal. Le conseil de ville de Dolbeau-Mistassini a officiellement octroyé le titre d'organisme supralocal à 16 organisations communautaires œuvrant sur son territoire afin qu'elles puissent bénéficier du support financier et logistique tant des gouvernements supérieurs qu'au niveau de la MRC. Cette reconnaissance est octroyée à chaque année par le conseil municipal puisque le travail et les interventions de ces organisations se retrouvent au-delà des frontières de la ville. Le conseiller municipal, Pierre-Olivier Lucien, présente les 16 organismes qui ont ainsi été reconnus.
Donc, la ville de Dolbeau-Mistassini a la responsabilité de recommander les organismes qui sont à caractère supralocal sur son territoire auprès des instances de la MRC. La liste déjà établie comprend les organismes suivants, donc la Maison d'intégration Nord-Lac, CEMO3F, Centre de femmes du pays Maria Chapdelaine, Centre de santé mentale Larimage, le groupe Espoir de Dolbeau-Mistassini, la Maison Halte Secours, le service budgétaire et communautaire de la MRC Maria Chapdelaine, la Maison Colombe-Veilleux, le Tournat 3F, le CRAN, Par Ensemble, la FMR Maria Chapdelaine, la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Lac-Saint-Jean, le Carrefour Jeunesse-Emploi et le Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini 2013. Donc, considérant qu'il y a une demande qui a été déposée par l'organisme Corporation de développement communautaire Maria Chapdelaine et que cet organisme répond aux critères supralocal, je fais la proposition que le conseil municipal recommande l'ajout de l'organisme Corporation de développement communautaire Maria Chapdelaine à la liste déjà reconnue.
La pédagogie et l'informatique au service de l'élève. Plus de 240 membres du personnel de la commission scolaire du Pays des Bleuets ont participé à une journée de formation entièrement dédiée au numérique. Qu'ils soient enseignants ou gestionnaires, ces employés partagent un but commun, intégrer efficacement et de façon optimale le numérique au service de l'apprentissage et de la réussite éducative des élèves de la commission scolaire. Nommée la pédago du numérique, cet événement s'inscrit dans le cadre du plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur lancé en mai 2018. Ce plan d'action propose un volet formation pour le personnel scolaire qui se divise en 3 parcours, flotte d'appareils, robotique et laboratoire créatif. La première édition de ce colloque porte principalement sur le volet flotte d'appareils. Le comité pédago-numérique de la commission scolaire a élaboré une programmation de 23 ateliers destinés aux enseignants du primaire, du secondaire, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, ainsi qu'aux gestionnaires. La directrice du service de l'enseignement et des services complémentaires, Mme Chantal Simard, et Marilyn Turgeon, conseillère pédagogique, dressent un tableau de l'utilisation du numérique à des fins pédagogiques au sein de la commission scolaire du Pays des Bleuets.
C'est une journée, en fait, dédiée au numérique pour que les enseignants s'outillent à utiliser le numérique pour, dans leur pratique d'enseignement. Jusqu'à maintenant, les études qui ont été faites disent que le numérique a un impact neutre. Mais au départ, de former les élèves à utiliser le numérique dans leur vie quotidienne puis de façon éthiquement acceptable, je crois que c'est vraiment une bonne chose. Déjà là, on a un gain qu'on voit peut-être pas dans les bulletins, mais quand on change nos pratiques, on voit des changements. Puis les nouvelles études dernièrement disent que quand on change notre façon d'enseigner avec le numérique, là, il y a des impacts positifs.
Il faut comprendre qu'on ne peut pas isoler cette composante-là puis dire, bon, bien, on est capable de dire que c'est à cause du numérique que les élèves ont de meilleurs résultats ou qu'ils réussissent. C'est un élément parmi différents éléments qui contribuent à la réussite éducative des élèves.
Bien, il y a tout ça dans la commission scolaire, là. Il y a des tableaux interactifs, il y a des flottes d'appareils, ce qui veut dire des appareils qui sont dans des chariots qui se promènent d'une classe à l'autre, soit des iPads, des Chromebooks, des portables infonuagiques. Ça, il y a ça, il y a de la robotique. On implante tranquillement le laboratoire créatif. Aujourd'hui, les ateliers portent sur les laboratoires, les flottes d'appareils. Fait que c'est sur, aujourd'hui, là, tous les ateliers, on parle de flottes d'appareils, comment on peut intégrer les flottes d'appareils.
C'est pas mal ça. Ouais. Donc, on a beaucoup d'outils technologiques dans les écoles, puis des projets pédagogique relié à tout ça, ben c'est présentement les ateliers à lesquels les gens sont en train de participer. Ben c'est tout le temps avec des intentions pédagogiques dans divers domaines d'apprentissage, français, anglais, éthique et culture religieuse, mathématiques, sciences et techno. Donc, c'est tout le temps en mobilisant différentes technologies, mais avec des finalités pédagogiques là, où on fait faire des apprentissages aux élèves. Mais c'est certain que il faut toujours se soucier, comme on a vu aujourd'hui, bien entendu, là, de l'identité numérique là, du jeune. Puis on a parlé beaucoup là, d'utiliser son jugement critique face à l'utilisation de ces outils-là, puis les différents outils, les plateformes, peu importe. On a parlé de Google, on a parlé d'algorithmes, on a parlé de plein d'éléments. Donc, les enseignants, présentement, sont en train de participer à ces formations-là.
Guillaume Raté, nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini. La Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini annonce la nomination de Guillaume Raté au poste de président du conseil d'administration. Monsieur Raté succède à Dominique Saint-Pierre, qui a œuvré pendant 10 ans au sein de la CCIDM, dont 7 comme président. M. Saint-Pierre demeure sur le conseil d'administration à titre de président sortant pour la prochaine année. Le nouveau conseil d'administration de la Chambre sera composé de, donc, Guillaume Raté comme président du groupe Mallette, le vice-président Yannick Saint-Pierre de Jean Dumas Ford, secrétaire M. Carole Besson de Salaison-Besson, trésorier Jimmy Laliberté de Deloitte, administrateur Jean-Sébastien Arcan de Provigo Jean-Sébastien Arcan, Jean-François Baudry de la Maison funéraire Hébert et fils, Carole Besson de Salaison-Besson, Étienne Bouchard, IG Gestion du patrimoine, Valérie Campion, agente immobilière, Jean-Philippe Dufour, SAE du Pays des Bleuets, Marie-Ève Fontaine de Fontaine et Roberge, Amélie Fortin, Ta peau, ton fruit, Ghislain Lamotte de Construction Unibec, Anne-Sophie Potvin, SBL Avocat, Francis Poirier, conseiller financier, Dominique Saint-Pierre, donc de Café Dominique Saint-Pierre, et Marie-Claude Tremblay de la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean. 2 postes sont occupés par Pascal Cloutier, maire de Dolbeau, et Isabelle Simard du Développement économique pour la ville de Dolbeau-Mistassini. Dylan Bélanger veut céder et démystifier la dysphorie de genre. Vivre dans un corps de femme alors que l'on se sent et que l'on vit comme un homme n'est certainement pas facile. Dylan Bélanger, un jeune étudiant en secondaire 5 à la polyvalente Les 80 de Saint-Félicien, originaire de Dolbeau-Mistassini, vit quotidiennement avec cette réalité. Dans le cadre de ses études et dans sa volonté de vouloir démystifier ce qu'est un transgenre, Dylan présentera le 16 décembre prochain une exposition et un témoignage sur sa vie. Il a bien voulu accorder une entrevue sur le sujet à la télé du Haut-du-Lac.
Dans le fond, moi, je vais faire une exposition multisensorielle le 16 décembre à 18h30 à la Polyvalente des 80 à l'Auditorium de Saint-Félicien. Ça va durer environ 10-15 minutes, je pense. Après ça, je vais faire un témoignage sur ma vie avec la dysphorie et mon parcours en tant que personne transgenre. Moi, j'aime ça dire que c'est une porte ouverte à mon esprit, qu'on peut me lire comme dans un livre ouvert. Tout le monde peut venir. Moi, je veux que ça touche le plus de personnes possible. C'est gratuit. C'est moi qui paye tout. Fait que venez assister. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en secondaire 5, au PEI, au programme d'études intermédiaires, on fait un projet personnel. C'est le gros projet qui dit si tu réussis ou non ton PEI. C'est assez stressant, merci. C'est personnel à chacun. C'est pour ça que ça met le mot personnel. Moi, je me suis dit, OK, c'est assez, je vais casser des tabous, je vais prendre la masse, je vais fesser dans les murs, puis je vais le faire. Je vais le dire, c'est quoi que je vis. Il y a juste mes amis qui savent que moi, je vis de la dysphorie. C'est assez, là. Ben la dysphorie de genre, c'est simple. C'est tout ce qui fait, tout le mal-être qui fait en sorte qu'une personne est transgenre. Dans le fond, c'est la déconnexion entre ton sexe biologique puis ton genre dans ta tête. Puis moi, j'ai décidé d'en parler parce que, ben moi, j'en vis, parce que moi, je suis une personne transgenre. Puis j'étais tannée qu'on me dise « qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? » C'est pas assez parlé, c'est encore trop tabou, puis je trouve que ça devrait pas l'être, parce que quand même, on est en 2019, presque 2020. Quand je vais faire mon exposition, on va être à quelques semaines de 2020. Puis je trouve que ce serait important qu'on arrête de dire, qu'on arrête d'avoir peur de me parler parce que je suis trans, parce que je vis de la dysphorie de genre, puis tout ça. Les personnes vont pas me le demander. Ils vont vraiment le supposer. La plupart des personnes vont me dire « elle » parce qu'on se le cachera pas, on vit dans une petite ville où tout le monde se connaît. Puis moi, ma mère est assez connue. Donc, la plupart des personnes m'ont vu grandir, j'étais tout petit. Puis, ils ont toujours pris en compte que Linda, elle a deux filles, puis c'est tout. Mais Linda est rendue avec une fille puis un fils. J'ai commencé à me questionner au début du secondaire, parce que le début du secondaire, c'était aussi le début de ma puberté. Puis, j'étais pas capable de vivre en tant que fille, en tant que femme, parce qu'on dit souvent que le début de la puberté chez une fille, c'est le passage à l'âge adulte ou à femme. Moi, je me voyais pas dans la vie être capable d'être une femme. J'étais tellement déconnectée avec le monde, j'étais pas capable. Je pouvais pas vivre là-dedans. En secondaire 2, j'ai commencé à chercher parce que j'étais tannée de me dire il y a quelque chose qui cloche avec moi. Puis c'est pas normal. Ben, c'est pas normal. J'aime pas utiliser le mot normal. Mais c'est pas habituel qu'un adolescent va se dire il y a quelque chose qui cloche avec moi autant que ça. Je me le posais à chaque jour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis aussi mal avec le fait d'être une fille? Tandis que toutes mes amies filles étaient comme « Ah, oh, je suis tellement heureuse, mes seins poussent, puis tout. » Mais moi, je voyais les gars que eux, leur puberté était commencée, puis je me disais « C'est ça que je veux. Pourquoi moi, je l'ai pas? » Puis en secondaire 2, j'ai fait des recherches, puis j'ai réussi à mettre le doigt dessus, puis à dire « OK, t'es un gars. » C'est juste ça. J'ai consulté, j'ai commencé une consultation en travail social. Après ça, j'ai été transférée psychologue. Puis après ça, ben là, j'ai été transférée en psychiatrie. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'ouvrir aux autres à cause de ça, parce que veux pas, quand t'as une maladie mentale, parce que la dysphorie de genre est considérée comme une maladie mentale, tu te sens hors norme, tu te sens pas normal. Encore là, j'utilise le mot normal, mais j'aime pas ça. Puis ça devient difficile de dire c'est correct, il y a plein de personnes qui vivent avec ça, puis il y a pas de problème avec ça.
Le Cercle des fermières de Dolbeau tiendra son assemblée mensuelle mardi le 12 novembre au sous-sol de l'église Sainte-Thérèse à compter de 13h30. Bienvenue à toutes. La MRC de Maria Chapdelaine présentera les grandes lignes de sa planification stratégique 2020-2025 le mercredi 6 novembre de 18h30 à 20h30 au foyer de la salle de spectacle Desjardins de Maria Chapdelaine. Vente de plaques commémoratives pour financer le complexe Aquagym dans le cadre de sa campagne de financement visant à amasser 1,5 million de dollars pour la construction du complexe Aquagym, la ville de Dolbeau-Mistassini lance la vente de plaques commémoratives. Les plaques sur lesquelles figurera le nom des acquéreurs seront disposées sur un mur des donateurs en bois à l'entrée du complexe. Les citoyens sont invités à se procurer une plaque par l'entremise des membres du cabinet de campagne et en ligne au www.jedonneenligne.org. Deux types de plaques sont offertes, la plaque individuelle au coût de 1 000 et la plaque familiale au coût de 2 500. L'achat d'une plaque donne droit à un crédit d'impôt combiné pouvant atteindre 494 $ dans le cas d'une plaque individuelle et 2 289 $ dans le cas de la plaque familiale. Le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, a ainsi présenté cette campagne de financement devant le chantier de construction de l'Aquagym.
Je me trouve en ce moment même sur le chantier du complexe Aquagym en compagnie de notre maire, M. Pascal Cloutier, qui va nous expliquer qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui. M. Cloutier.
Bien, en fait, on est en face de notre futur complexe Aquagym, près de l'entrée principale, aussi en face de notre futur mur des donateurs. Le mur des donateurs, ça va être un endroit qui va être réservé pour afficher les dons, soit des entreprises, mais aussi il va y avoir une section qui va être réservée aux gens, aux donateurs particuliers qui veulent faire un don. Et d'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui qu'on est ici, pour inviter les gens à donner à cette campagne de financement-là. Les gens vont pouvoir donner de manière individuelle au coût de 1 000 on parle d'un retour d'impôt de près de 500 À ce moment-là, on va indiquer vraiment le nom de la personne sur la plaque. L'autre façon, c'est on peut y aller avec la famille. Donc, avec la famille, la plaque va être un peu plus grosse. Et à ce moment-là, on parle d'un montant de 2 500 pour avoir le nom de la famille sur la plaque. Et on parle d'un retour d'impôt d'environ 1 300. On peut se procurer ces plaques-là en appelant à l'hôtel de ville ou soit en allant sur jedonneenligne.org/aquagym.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à l'édition du 2 novembre 2019 de Nouvelles du Haut-du-Lac. Nous vous invitons à être des nôtres la semaine prochaine pour un résumé de l'information locale.